D'accord? Donc, c'est ça. Et si le faire n'est pas pensé comme agir, si cela n'est pas vu comme fructification d'une communion, vous voyez, simplement comme une opération technique pour nourrir la population, vous tombez dans l'humanitarisme et vous tombez finalement dans une technique, dans un règne technologique, déjà technologique. Votre discours est un discours d'abord technique. Le problème de la technologie, c'est que il n'y a, c'est pas qui est de la technique, c'est pas ça, mais que la technique l'emporte et absorbe toutes les autres dimensions. C'est-à-dire que la technique absorbe le spéculatif, la sagesse, etc. C'est des algorithmes qui dévorent tout, et puis absorbe l'agir. Tout est pensé en termes d'opérations transitives efficaces sur les matières extérieures. D'accord ? Il n'y a plus de sagesse, il n'y a plus cette chose que vous avez en vous-même, vous voyez, parce que c'est Google qui fait tout. Il n'y a plus de communion avec les autres, puisque c'est des dispositifs qui prennent en charge le... Vous savez que c'est au nom de cela que des penseurs, des amoureux des pauvres, vous avez des mouvements chrétiens, vous savez, des gens qui étaient vraiment amoureux des pauvres, mais qui étaient contre la sécurité sociale et les trucs comme ça, vous voyez, parce qu'ils pensaient que si c'était l'État qui redistribuait tout le temps, on détruisait, vous savez, le rapport de communion nécessaire, où c'est à chacun qui est responsable et en charge de... Ah, c'est très curieux, hein. Enfin, je ne dis pas ça pour défendre Fillon qui veut, vous savez qu'il a un projet sur la sécurité sociale, donc diminuer comme ça les remboursements, etc. Mais ce qui est curieux, c'est que des mouvements extrêmement sociaux, alors il y a, par exemple, je pense à Le Play, qui était un chrétien avec une vision très catholique, très... en lien un peu avec Rerum Novarum, si vous voulez, dans la suite, ou même le distributisme anglais, Chesterton et tout ça, c'était des gens qui critiquaient l'idée d'une sécurité sociale, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait une sorte même de monopole de la charité. C'est à chacun de l'exercer, etc. Vous voyez ? Alors ça pose différents problèmes, hein, parce que je ne suis pas en train de vous dire c'est comme ça qu'il faut penser. Mais vous comprenez, c'est au nom de cela, enfin au nom que... voilà, c'est d'abord l'être avec l'autre. Parce que si vous vous dites c'est pris en charge par l'État, vous savez, tous ces trucs qu'on fait pour les handicapés, les rampes, les machins, les trucs, les ascenseurs, les trucs, ce qui fait que d'ailleurs, pour pouvoir accueillir du public, vous devez avoir des trucs, des accès handicapés, ce qui fait que vous ne pouvez plus faire de salle de spectacle, des trucs où ça vous coûte trop cher. Mais l'idée, en gros, c'est que le handicapé vive tout seul, personne ne vient l'aider, jamais. Vous voyez, il y a des marches, il faut qu'il puisse y aller tout seul, parce que personne ne va venir prendre sa chaise roulante et monter les marches. Personne, c'est fini. D'ailleurs, bientôt, on va faire des rampes d'accès pour les bébés aussi, avec leurs poussettes. Personne ne doit pousser la poussette, parce que sinon, il faut qu'il puisse être autonome comme ça. Personne. C'est pour ça que, vous voyez, s'il y a une perfection d'être avec l'autre, et quel qu'il soit, parce que, on voit l'autre homme, la plus grande des richesses, plus que n'importe quel objet matériel, si vous voulez, voilà, on a un autre sujet en face de soi, et on voit que notre être étant un être, justement, ayant cette dimension politique, ayant cette dimension communielle, toute cette rencontre, vous voyez, est un perfectionnement. Est une fructification de notre être. Et c'est dans cet agir-là, dans cette dimension de communion, et on voit qu'il y a cette joie d'être ensemble qui est première, que à ce moment-là, l'aumône, tout ça, peut se déployer. Sinon, ça devient quelque chose d'aberrant. Donc, vous voyez, pour ça, pour vous faire comprendre l'importance de cette pensée, vous voyez, où il s'agit d'une opération immanente, pas simplement d'une opération transitive. Et un déploiement de notre vie comme vie d'un animal politique, donc profondément, vous voyez, être de communion ou de relation. D'accord ? Alors, j'en arrive à la liberté. Merci. J'ai la voix, je ne sais pas pourquoi, ma voix, j'ai l'impression que j'ai descendu de 2-3 tons, là. Vous vous souvenez que la question de la liberté était pensée dans le nominalisme, dans beaucoup de visions. Vous savez, on a une liberté qui est la liberté de choix. Je peux faire ce que je veux, en gros. Et puis, en face, j'ai une loi qui vient s'imposer de l'extérieur et je dois conformer ma liberté à la loi. Mais si, vous comprenez, le bien, la vie morale, c'est le déploiement de mon être, à ce moment-là, la liberté, je ne peux pas la penser simplement comme liberté d'indifférence. Ah ouais, la question pour nous, c'est, dans ce cadre-là, qu'est-ce que c'est que la liberté? Comment penser vraiment la liberté? À partir de ce qu'on vient de dire. Moi, souvent, les gens disent, oui, la liberté, ce n'est pas faire ce qui te plaît. Vous avez déjà eu des cours comme ça de philo où les types commencent tout de suite par vous dire, non, la liberté, ce n'est pas faire ce qui te... Moi, je dis, si, c'est ça. Faire ce qui nous plaît. La question, c'est qu'est-ce qui nous plaît? Parce qu'en fait, si vous réfléchissez bien, je ne parle pas de nos petites envies, mais qu'est-ce qui répond profondément à notre désir? Pardon?
Le plein dépendant de notre être.
Voilà, c'est ça. Non, mais vous voyez, déjà, ceux qui commencent par parler de la liberté en vous disant... La liberté, c'est pas faire... Vous voyez, ce truc qui est très simple, hein, et vous dites, ouais, voilà, non, vous êtes un prolo quand vous dites c'est ce qui vous plaît, vous n'avez rien compris, nous, on va vous expliquer ce que c'est que le libre arbitre, etc. Bon. Non, c'est très simple. Oui, on sent... Les gens, pensent la liberté pas d'abord comme libre arbitre. Pas d'abord comme libre arbitre. Le libre arbitre est secondaire. C'est absolument pas premier. Je vais vous prouver que c'est pas premier. Comment est-ce que je peux vous prouver que c'est pas premier, le libre arbitre? Que ce qui est premier, c'est le désir du bien. Et que la liberté, c'est d'abord, vous voyez, le fait de trouver la voie libre dans notre élan vers le bien. Vous voyez? Je pourrais vous prouver par l'amour, par exemple. Alors, je vais faire une version... Pour les hommes, une version pour les femmes. Donc pour les femmes, c'est avec l'amour. L'amour. Vous aimez. Mais vous voyez bien que aimer, vous avez l'impression que c'est une liberté. Vous avez tout d'un coup... Parce que vous êtes faites pour ça. Alors, vous voyez, vous aimez, vous avez quelqu'un que vous aimez, qui vous aime. Vous êtes faites pour ça. Je n'ai pas dit que les hommes n'étaient pas faits pour ça. Hein, bon. Mais enfin, vous en êtes plus consciente, disons. Alors... Les hommes, ils ont un peu plus de couches à dégager avant. Et donc, vous êtes dans une situation, quand vous êtes amoureux, vous êtes dans une situation de dépendance. Et apparemment, hein, et pourtant, c'est la liberté. Et pourtant, c'est, vous n'êtes pas dans une situation où vous êtes en train de dire, ouais, peut-être celle-ci, peut-être celui-ci, peut-être celui-là, j'hésite encore, mais c'est ça la liberté, c'est j'ai le choix entre des tas de types. Mais non, c'est quand il n'y en a plus qu'un seul, vous n'avez plus le choix. Et là, vous vous sentez libre. D'ailleurs, c'est très grave de penser que de dire de quelqu'un qu'il est libre parce qu'il n'a pas de femme. C'est l'inverse. Non, ça ne dépend pas, ça vaut pour tout le monde. J'espère que vous avez une belle théologie du sacerdoce, hein, parce que sinon, c'est grave. Hein. Ah, vous croyez que les prêtres, ils sont célibataires, vous? Ils sont l'époux de l'Église. Oh, vous en avez une belle femme, sainte et immaculée. Bien sûr, c'est très important. Et le baptême, c'est l'enfant qui naît de l'union de l'époux et de l'épouse. Attendez, il faut faire attention. Le célibat, c'est d'un point de vue, si vous voulez, extérieur, mondain, si vous voulez, mais dans la réalité, la dimension nuptiale, elle est essentielle. La dimension pater, on dit bien un père, hein, il ne peut pas avoir de père sans épouse. Hein, dans l'ordre créé, hein, bien sûr. Donc, si vous voulez, non, c'est vrai. Et c'est là que vous êtes libre. Vous êtes libre d'engendrer parce que, vous voyez, agissant dans la personne du Christ comme l'époux de l'épouse qu'est l'Église, vous pouvez lui engendrer des enfants. Sinon, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas cette liberté-là. Un homme marié est plus libre qu'un homme qui n'est pas marié. D'ailleurs, vous le voyez bien, vous n'êtes pas marié. C'est toujours très... Non, mais oui, vous êtes toujours... Ah, peut-être, oh là là, il cherche, il est... Ils font des... Vous faites des trucs, vous faites de la musculation. Non, 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 mais c'est belle, c'était pas... Mon geste est allé vers vous, Maëlle, mais c'est un hasard. Vraiment, j'ai pas du tout de... vous vous rendez compte, vous n'êtes pas libre. Les types, ils vont quoi? Ils vont dans des discothèques. Ils s'enferment dans des discothèques pour essayer de rencontrer des gens. Ils vont dans des trucs de rencontre. Des trucs de... C'est le signe que vous n'êtes pas libre. Vous êtes toujours enfermé dans vos, vous voyez, vos questionnements. Là, vous êtes libre. Plus vous approchez de l'accomplissement, plus vous êtes libre. C'est évident, c'est évident. Donc, il faut arrêter, il faut renverser complètement ces manières de voir. Parce que vous croyez que la liberté, c'est pouvoir choisir tout le temps, etc. Mais non, la liberté, c'est d'abord dans un ordre d'accomplissement. Ce n'est pas la liberté d'indifférence où je peux tout le temps choisir entre ceci et cela. C'est faux. Voilà. Donc d'abord, c'est ça ce que je voulais vous dire. Parce que si vous ne comprenez pas ça, tout ce que j'ai dit au préalable, ça ne marche plus. Alors je vais vous le démontrer maintenant. Alors pour les hommes. Non, je n'ai pas encore fait les hommes. Après, vous poserez ça votre question.
Ah, c'est pour ça. Je ne comprenais pas.
Oui, c'est ça. Alors, Paul. Je vais vous laisser le choix. Soit je vous perfore l'œil. Vous pourrez choisir lequel.
Liberté.
Avec un, oui, non. Soit je vous perçois... Oui, voilà, non, choisissez l'œil que je vous perfore, par exemple. Non, mais voilà, tiens, je n'y avais pas pensé. Voilà. Alors voilà, vous avez le choix. Soit je vous perfore l'œil gauche, soit je vous perfore l'œil droit. Vous voyez? Alors, là, quoi, je te laisse le choix. Alors, non, vous ne pouvez pas donner de réponse. Oui, sauf si vous tombez dans des trucs, ah oui, mais quel est mon œil directeur, etc. Mais enfin bon, ce n'est pas très important. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous remarquerez que si on vous propose deux choses qui vous apparaissent comme des mots égaux, un mâle et un autre mâle, ou 10 mots différents égaux, et je vous dis, maintenant, vous avez le choix. Vous voyez, je vous demande un catalogue de supplices. Et vous avez un menu. Vous pouvez choisir dans le menu des supplices. Je vous dis, maintenant, choisissez. Regardez, vous avez une liberté, non? Alors, choisissez. Et vous voyez bien que vous n'arrivez pas à choisir. Vous voyez? Vous dites, il n'y a pas quand même une petite douceur, là, dans les desserts? Il n'y a pas un autre truc? Parce que bon, si j'ai le choix entre la pendaison, l'estrapade. Vous connaissez l'estrapade? C'est quand on balançait des gens de très très haut, c'est sans élastique, c'était des cordes. Ce qui fait que quand ils arrivaient, enfin ils n'arrivaient pas en fait, c'était pas qu'ils s'écrasaient. Ça on peut aussi écraser quelqu'un, ça c'est autre. Mais l'estrapade c'était une autre technique, c'est que quand on les tombait de très haut, et puis alors le corps se désarticulait, vous voyez. C'était très bon. Non mais je vous laisse encore le choix si vous voulez. Il y a un truc qui est pas mal que j'avais vu dans un musée comme ça, des instruments de torture, des techniques de torture. On met un rat sur le ventre de quelqu'un dans une cage et par-dessus on met des charbons ardents et le rat a tellement chaud, vous voyez, qu'il se met à creuser. Voilà, vous avez le choix entre ces différentes choses. Forcément, vous n'allez rien... Chut, s'il vous plaît. Donc, non, ça ne plaît pas à Eve du tout. Donc, vous voyez bien, pourtant, je lui ai laissé le choix. Eh bien, rien, elle ne veut pas choisir. Elle dit, qu'est-ce qu'elle va dire si elle est censée? Elle ne va pas choisir, elle va dire, s'il n'y a que ça, choisissez-vous, parce que franchement, je ne vois pas, tout est horrible. Mais ça nous prouve que quoi? qu'on ne choisit une chose que si... Mais oui, si elle présente un aspect de bien et d'accomplissement pour nous. Donc ça montre bien que la liberté pour nous, ce n'est pas choisir simplement. On est poussé à choisir que parce que, vous voyez, ça répond à notre désir du bien. Et donc, vous voyez, la liberté, c'est le libre arbitre, c'est la capacité de choisir, mais de choisir en vue du bien. Si vous retirez ça, votre liberté, votre libre arbitre n'a même plus de dynamisme, il s'effondre. Si vous avez le choix entre des trucs qui sont pour vous neutres, indifférents, que ce soit dans l'ordre du mal ou que ce soit dans l'ordre des produits vous voyez, dans un supermarché. Oui, parce qu'à la fin, c'est ça, c'est qu'on vous propose des trucs à peu près identiques, vous voyez, chacun est concurrence des emballages et trucs, ils sont tous en train de vous proposer un truc qui est le meilleur ou le mieux que le voisin, mais en fait, et vous dites, ouais, je suis libre parce que j'ai pris le paquet tout seul. Mais en fait, ce n'est pas de la liberté, vous voyez. À la fin, ça s'effondre, parce qu'il faut que ça vous excite pour que vous ayez envie de choisir. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vous attire. Donc, un bien. D'accord ? Donc, même la liberté comme libre arbitre, c'est, vous voyez, c'est d'abord, elle est dynamisée, le libre arbitre est dynamisé, motivé, que parce qu'il y a d'abord cet appétit du bien, cette dynamique du bien. Sans ça, ça ne marche pas. D'accord ? Donc, si vous regardez le mot liberté, justement, est-ce que vous comprenez mieux là maintenant, Paul ? Ah, vous voyez, c'était pas... Mes exemples étaient sexués quand même, hein. Ouais, ben voilà. Merci. Donc, si vous voulez, on pourrait distinguer deux sens du mot liberté qui sont chez nous imbriqués l'un dans l'autre. Vous avez une liberté de nature, où c'est le dynamisme du déploiement d'une nature, et une liberté de vouloir. C'est ça qu'on appelle le libre arbitre. La faculté de choisir, qui serait d'ailleurs propre à l'homme. Mais la liberté de nature, elle n'est pas propre à l'homme. Tous les types d'êtres peuvent connaître une liberté qui correspond à leur nature. Par exemple, je peux parler d'une pierre en liberté, en chute libre. On dit que la chute de la pierre est libre. Parce qu'elle suit, c'était la thèse d'Aristote d'ailleurs, son appétit qui l'a fait aller vers le sol. Elle n'est pas empêchée dans son appétit d'aller vers le sol. D'accord ? Quand je suis à l'air libre, l'air est libre. Alors, c'est pas, ça peut être métonymique, mais enfin, je pense que c'est l'air libre parce que l'air n'est pas confiné comme un gaz a tendance à s'épandre, hein, une expansion. Ouais, quand il n'est pas confiné, ben, l'air est libre. Même l'air, vous voyez, donc ça marche pour ça. Une plante qui pousse librement, c'est une plante, vous voyez, qui n'est pas écrasée, qui ne subit aucune coercition. On parle d'animaux en liberté, ce sont les animaux qui peuvent mener leur vie sauvage selon la dynamique propre de leur nature. D'accord ? Donc, ce n'est pas par métonymie, parce que quand vous dites un WC, les WC sont libres. Non, parce que c'est, on le dit aussi. Non, il faut être exhaustif quand on fait une analyse de langage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'urgence. Parfois, il y a des gens qui sont prêts à manifester pour la libération des WC. Parce qu'ils sont tenus, quoi. Enfin, il y a un truc en eux qui les pousse, quoi, à s'engager en faveur de la libération des WC. Mais cela pour vous dire que, dans ce cas-là, c'est comme quand on dit un mur aveugle, c'est plutôt parce que c'est nous qui sommes libres de l'entrée, c'est pas le WC qui est vraiment à proprement parler libre. Vous comprenez ? Ou est-ce qu'il y a une différence ? D'autant que la nature du WC, c'est plutôt d'être occupé. Enfin, il est là pour qu'on... Donc, si on devait parler de liberté de nature par rapport au WC, on dirait « Ah, il est enfin libre au sens où il est occupé par quelqu'un. Ben, » parce qu'il est là pour ça. Vous comprenez? Vous suivez, là? Je ne sais pas si vous suivez. Bon. Alors, je reprends. Non, c'est important parce que vous... on essaye de faire du Thomas d'Aquin comme vous ne l'avez jamais vu. Voilà. Alors, liberté de nature, comment est-ce que je vais définir cette liberté-là, qui est la plus fondamentale et qui est celle qu'on trouve dans tous les êtres à des degrés de déploiement différents, vous voyez, parce que c'est selon la nature d'un être. Comment je vais la définir, cette liberté-là? Définition. Alors, ce n'est pas la faculté de choisir ici. La pierre, elle n'a pas le choix. La plante, elle n'a pas le choix. Donc, c'est quoi? Oui. Alors, la liberté, c'est de... Vous allez dire comment? Cette liberté, comment vous allez la définir? Pouvoir agir selon sa nature, c'est pas mal, ouais. Moi, je dirais pas ça, mais en fait, c'est plus facile de la définir de manière négative. C'est la liberté de ne pas être empêché dans son mouvement naturel. Alors, vous pouvez même dire ne pas être empêché. Moi, jusqu'à récemment, c'était la seule chose que je disais. Mais en réalité, on pourrait même dire... Être entraîné dans ça. Vous voyez, parce qu'il pourrait y avoir aussi quelque chose qui vous rend libre. Si la vérité vous rend libre, si d'être époux rend un homme plus libre que de ne pas l'être, à ce moment-là, ce n'est pas simplement qu'on n'est pas empêché. Bien sûr, il y a le fait que ça libère une dimension qui est en nous, mais en plus, on peut être accompagné. Alors, il y a des choses qui sont, vous voyez, libératrices au sens où non seulement elles n'empêchent pas, mais en plus, elles dynamisent, elles permettent le plein déploiement de la liberté de ce mouvement naturel. D'accord? Parce que, juste une remarque, ça marche bien pour une pierre, ça lui fait tout seul, pour une plante, son dynamisme est propre, mais pour l'homme, il a besoin quand même des autres, vous voyez, pour que ça... Donc, ce n'est pas simplement ne pas être empêché, comme si ça se faisait tout seul, si personne vous empêche. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Faut pas l'oublier, ça, hein. Donc, il y a une formule négative, mais on pourrait... Donc, non seulement on n'est pas empêché dans son mouvement naturel, mais en plus, on est... Vous avez compris, hein? Alors, comment est-ce qu'on va dire? Entraîné. Et vous comprenez que, dès lors... qu'est-ce qui est bon? C'est ce qui convient à mon mouvement naturel, au déploiement de mon... Vous vous souvenez, hein, on avait essayé de penser le bien. C'est ce qui convient à mon être, à ma nature. Donc, vous voyez, c'est d'abord parce qu'une chose est bonne qu'elle m'attire. Mais comme je vois qu'elle est bonne, elle m'attire, et c'est à partir de ce moment-là où je vais me poser la question, que choisir? Je vais choisir la chose qui permet le plus le déploiement de ma nature. C'est ça le choix. D'accord? Ma nature en général, mais aussi ma nature dans un sens plus particulier. Parce qu'il y a des choses qui sont bonnes, par exemple le mariage avec une femme, c'est ce qui est bon pour certains, mais ce n'est pas ce qui est forcément le mieux pour d'autres. D'accord. Mais vous voyez, c'est là qu'il y a un choix, c'est des choix entre des biens. Il va y avoir le fait que ça doit être bien, c'est conforme à ma nature, mais en plus, il va y avoir le fait que c'est dans ce bien-là que je vais manifester ma personnalité aussi. D'accord ? Juste une petite remarque. Il y a ce qui est conforme à la nature en général. Et à ce moment-là, vous voyez, si ce n'est pas conforme, c'est mauvais. D'accord ? C'est ce qui ne convient pas, c'est mauvais. Mais après, il y a la question de ce qui me convient le mieux à moi. Et là, il faut faire attention, ce n'est pas la même chose, parce que là, il y a une part d'inventivité. Ce n'est pas comme si vous aviez une personnalité complètement prédéfinie et vous cherchez les biens qui correspondent à cette personnalité prédéfinie. Aussi, en choisissant, vous allez réaliser ce qui va être aussi le déploiement de votre personnalité. Vous comprenez ? Quand nous sommes tous appelés à la louange, vous pouvez dire « Ah ben, on n'a pas le choix ». Ben si, vous avez le choix. Vous avez largement le choix, parce que les moyens de la louange, vous voyez, sont illimités. La question, c'est comment vous allez porter cette louange. Et ça va aussi donner une coloration qui va être celle de votre être, si vous voulez, de votre vie. Alors, de l'autre côté, la liberté de vouloir, c'est lié à la nature de l'homme. C'est-à-dire que le vouloir humain a une nature propre qui est de désirer le bien, mais parce qu'il désire le bien, voyez, il est relativement libre par rapport à des biens particuliers. Il va exercer des choix, voyez, de sorte que c'est toujours en vue du bien. Donc vous voyez, c'est la faculté de choisir en vue du bien. Alors, je vous ai mis un texte d'Aristote, vous le lirez, qui est un texte classique. Le troisième texte, vous le verrez, qui est le texte qui explique que pour pouvoir délibérer, pour qu'il puisse y avoir délibération et choix, il faut d'abord qu'il y ait un bien que l'on vise. S'il n'y a pas d'abord un bien que l'on désire, il ne peut pas y avoir de délibération. Vous comprenez ? Par exemple, vous avez... vous désirez déjà être un philanthropos. Donc, vous avez des choix dans la journée, travailler, vivre la vie fraternelle, c'est parfois des dilemmes. Bon. Pour déployer cette vie de philanthropos. Mais alors, vous allez me dire, bon, mais cette chose-là, être un philanthropos, relève lui-même d'un choix. Vous êtes d'accord ? Oui, mais alors, ça, c'est parce qu'il y avait autre chose que vous aviez d'abord visé, qui était quoi ? Qui était peut-être, ben voilà, déployer votre humanité dans un contexte, si vous voulez, qui est celui de l'enseignement tel qu'il est proposé aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a des choses qui manquent, donc vous avez réfléchi et vous avez choisi philanthropos plutôt qu'autre chose. Il y a peut-être d'autres choses possibles. Vous voyez ? Mais c'est parce que vous visiez quelque chose qui était le déploiement de votre être. Vous comprenez ? Et ultimement, donc, on va toujours arriver, les délibérations présupposent toujours une visée. Mais ça veut dire que certaines visées ont été elles-mêmes choisies, sont elles-mêmes issues de délibérations. Mais il faut forcément arriver à une visée première qui, elle, n'est pas choisie. Sinon, on n'aurait jamais commencé à délibérer. Et c'est ça qu'on appelle le souverain bien, dit Aristote. Le souverain bien, c'est la visée première de la volonté qui est la source de la délibération. Je prends un exemple. Vous arrivez toujours au souverain bien quand vous posez la question « Pourquoi ?» Dans quel but ? À quelqu'un ? Par rapport à ses choix. Vous comprenez ? Par exemple, si je demande à Lydie pourquoi elle a mis ce haut marin aujourd'hui ?
Je
Ouais, c'est embarrassant. Hein.
C'est très facile.
Si, si, c'est très facile, avouez. Alors. Mais même si elle répondait ça, alors ouais, elle, il y a plusieurs réponses. Elle disait, il lui restait plus que ça, voilà. Elle peut dire, j'ai pris le premier vêtement qui m'est tombé sous la main. Si ça avait été un homme, je l'aurais cru. Mais, voilà. Donc, on m'a souvent fait cette réponse-là. Mais c'est vrai que vous pouvez dire, bah, parce que, voilà, parce que ce vêtement m'est agréable. Je pourrais lui poser la question, alors, bah, j'aime bien le porter, il me va bien. Alors, je pourrais lui dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, va bien, parce que ça, c'est toujours pas vrai. Donc, je dis, bah, voilà, je suis plus avenante pour les autres, voilà. Et là, vous ne devez pas avoir honte, parce que c'est une grâce que vous nous faites. Non, parce que souvent, on croit que c'est la séduction de l'autre, mais ce n'est pas ça, c'est aussi parce que, voilà, il y a une sorte de... Donc, mais la question que je vais lui dire, c'est pourquoi est-ce que vous voulez être plus avenante? Elle va dire, bah, parce que, justement, c'est là que, quand on est avenant, qu'on entre en relation aussi avec les autres, et que c'est bien d'entrer en relation avec eux. Je lui dis, mais pourquoi c'est bien d'entrer en relation? Elle est obligée de remonter à un moment en disant, bah, voilà, parce que ça, c'est un bien, point. C'est pas une option. Vous comprenez? Si loin que vous alliez, vous devez toujours remonter à quelque chose qui n'est pas à choisir, mais dont les autres choix dépendent. Quelque chose qui apparaît comme un bien qui est d'abord donné, qui fait partie de notre nature sociale, notre nature, vous voyez? Et donc, vous voyez que la liberté de choix s'appuie sur le dynamisme naturel. La liberté de choisir n'est pas première, ce n'est pas la liberté d'indifférence qui est première. D'accord? C'est une liberté dans une non-indifférence. Une liberté, au contraire, dans un désir d'un bien. Et ça, c'est fondamental de comprendre cela. Alors, une fois que vous avez compris ça, juste pour conclure, est-ce que c'est une liberté... souvent, certains se disent, bon, on vous avait vu, hein, la liberté, ce n'est pas simplement le fait de pouvoir choisir. C'est de pouvoir choisir en vue du bien. Maintenant, je vais vous poser la question suivante. Quand on a la liberté entre le bien et le mal moral, voyez, est-ce que je peux appeler ça une liberté? Liberté de choix entre... Est-ce que pouvoir pécher, ouais, je veux dire autrement, est-ce que pouvoir pécher est une liberté? Alors, si j'entends les mots, je vais dire, bah, c'est pouvoir quelque chose, sinon qu'on ne pourrait pas. Donc, c'est une liberté. Mais vous avez fait un peu de métaphysique avant. Alors, qu'est-ce que vous devriez dire? Est-ce que pouvoir pécher, c'est une liberté? Non? Remarquez que si vous disiez que pouvoir pécher était une liberté, vous diriez que Dieu est moins libre que moi. Oui, mais c'est même pas ça, c'est même pas de l'ordre du pouvoir le péché, c'est plus de l'ordre d'un impouvoir, d'une diminution du pouvoir. Vous voyez, ça du point de vue métaphysique, c'est comme ça. C'est pas que j'ai pas le choix, je peux pécher. Attention. Mais quand je pêche, c'est une diminution de ma puissance. Vous comprenez? Donc à ce moment-là, ça ne relève jamais de l'ordre de l'être ou de l'ordre du perfectionnement. D'accord? Et Thomas d'Aquin, quand il pose cette question, il va dire la chose suivante, qui est assez évidente, il dit, ben voilà, pouvoir se tromper pour l'intelligence est un défaut, pouvoir pécher pour la volonté est un défaut. Pouvoir pécher ne correspond absolument pas à une perfection de la volonté. La capacité de pouvoir pécher, c'est un défaut de la volonté. Et parce que la pleine liberté, et là on retrouve ce que j'étais en train de vous dire, c'est justement de ne plus pouvoir pécher. C'est-à-dire de ne plus avoir le pouvoir de cet impouvoir, de cette diminution, de se mettre dans des chaînes. Vous comprenez? C'est très important. Vous voyez, j'essaie de vous faire entrer dans cette vision qui est non seulement métaphysique, mais en plus anthropologique, et qui vous permet de voir que la liberté est dans le déploiement vers le bien et pas simplement dans la capacité de choisir. Et dès lors, le fait de pouvoir pécher n'est pas un vrai pouvoir ou n'est pas une perfection de notre pouvoir. C'est au contraire une diminution de notre pouvoir. Oui, Claire ? Vous avez raison. Parfois, c'est mal dit par les gens. C'est vrai que parfois, ce n'est pas la bonne manière de dire. Alors, il nous a... D'abord, Dieu ne peut pas faire une créature personnelle, vous voyez, qui soit directement dans l'impeccabilité. Ah oui. L'impeccabilité, ultimement, c'est l'ultime... Mais on vise cette liberté-là. C'est celle qu'on a au ciel. D'accord ? Vous avez plusieurs possibilités. Hein. Vous avez la ne pas pouvoir pécher. Et ça ne nous est pas donné au départ. Ça nous est donné qu'au terme, vous voyez, de la gloire, à travers un chemin, quelle que soit la créature. D'accord ? Mais c'est une visée, c'est quand même cette liberté ultime que nous visons. D'accord ? Là, nous sommes dans un pouvoir ne pas pécher. Et une créature, elle est d'abord créée comme ça. Parce que pour qu'elle entre dans le ne pas pouvoir pécher, il faut qu'elle accueille une volonté qui est plus grande que la sienne. Vous voyez, ce n'est pas sa volonté. Donc, il faut qu'il y ait ce temps, vous voyez, de choix ou d'adaptation personnelle. C'est une alliance. Donc, c'est pour ça que si Dieu vous crée tout de suite dans ce truc, vous seriez déjà Dieu, si vous voulez. Mais il y a toujours cet écart entre le créateur et la créature. D'accord ? Alors, juste, Joël, tu as eu Nicolas tout à l'heure ?
C'est OK.
Bon, OK. D'accord. Alors, je vais devoir m'arrêter quand même, mais je vais juste finir là-dessus, Mariana. Mais non, mais je veux bien écouter ce que vous voulez dire, Mariana. On peut vouloir se venger. Mais parfois, c'est très bien de se venger. Pas forcément. Non, la vengeance peut avoir un côté... Parce qu'on invoque un Dieu vengeur aussi, hein, vous savez, dans les trucs. Mais c'est pas... Vous voyez, c'est même vengeur, rédempteur, parfois, vous voyez, le Goël d'Israël, le rédempteur d'Israël. On ne sait pas trop traduire cette phrase en hébreu. Mais venger, ça peut être simplement vouloir la réparation de la justice. Hein, donc, ce n'est pas en soi absolument mauvais, si vous voulez. Après, il y a un aspect de la vengeance qui peut être complètement pervers. Mais il faut faire attention, la vengeance, ce n'est pas en soi. Hein. Il faut voir ce qu'il y a de bon. Alors, juste, j'aurais dû juste revenir. Il y a une chose que nous donne le fait de pouvoir pécher et de ne pas le faire. C'est la dimension du mérite. Voilà. Dimension du mérite est liée à ça. C'est-à-dire la seule chose qui est, on pourrait dire, indirectement, mais positive dans le fait de pouvoir pécher, c'est le fait qu'on pouvait pécher et on ne l'a pas fait. Et alors, à cause de cela, nous acquérons un mérite. Voilà. La notion de mérite est liée au fait de pouvoir pécher. C'est pour ça, d'ailleurs, que les saints qui sont dans le ciel ne peuvent plus acquérir de mérite. Ah, parce qu'ils ne peuvent plus pécher. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent... c'est pas parce que tout d'un coup, ils déméritent ou que... Vous voyez, mais c'est qu'ils sont dans une plénitude de liberté. Nous, le fait même que, vous voyez, nous soyons soumis à la tentation, etc., et que, vous voyez, il y a un moment où nous laissons... Ça ne veut pas dire que c'est par notre propre force, mais nous laissons la grâce faire son œuvre en nous alors que nous pourrions l'empêcher. Vous voyez ? Bah, ça, c'est la source du mérite. D'accord ? Faites attention, le mérite, c'est de ne pas empêcher la grâce. Ce n'est pas moi qui me charge. Très attention. D'accord ? Donc, c'est ça. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'il y a une dimension. Mais vous voyez, c'est la question que vous posez, c'est une question qui est très profonde en métaphysique. Alors, on pourrait l'aborder, je ne peux pas... poser là à des théologiens, d'ailleurs. Voilà, on va s'arrêter ici, merci.